Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, le magazine de toute la scène française. Une heure en musique, du live, l'actualité des albums, des EP, c'est le rendez-vous musical de la soirée, à podcaster évidemment. Ce soir, on fait une traversée avec Bertrand Betch, 14e album, pour une remontée aux racines avec le premier roman biodynamique de Florent Marché. Au programme donc, le bonheur à portée de voix pour Betch et une défense et illustration du monde paysan avec un marché engagé. Ce soir, le live Marion Guilbeault.
On va rester dans le territoire, une histoire de territoire, de fratrie, de musique avec le duo Terre Noire en live dans quelques minutes.
Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Côté club, vous êtes bien sur France Inter.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et tout de suite, on ouvre avec un « Ça vient de sortir » signé Phoenix. Il n'y avait rien eu de nouveau depuis 2017, depuis l'album « Ti amo ». Ce soir, on se passe « Identical », un extrait de la BO du prochain film de Sofia Coppola, « On the Rocks ». BO qui sortira sur Apple+, au mois d'octobre. Et a priori, ce nouveau single devrait faire partie du prochain album de Phoenix, actuellement en préparation. Tout ce qu'on sait, c'est que ce disque est encore un peu éparpillé. Thomas Mars, le chanteur et compagnon de Sofia Coppola, a déclaré récemment « En tant que musicien, c'est le moment le plus excitant. Il n'y a aucune cohérence et c'est un peu comme notre premier album, United, sur lequel certains titres étaient heavy metal, d'autres plus country. C'est la même sorte d'album bizarre modelé à la façon de Frankenstein. Identical va tourner sur la playlist de France Inter. Ensuite, on va partir en live, Marion Guilbeault, avec nos invités. Ils sont deux, derrière les micros, deux frères, stéphanois.
Ah, exactement, et on va continuer avec une histoire de terroir, de territoire, de terre noire. Donc un duo, deux frères, Théo, Raphaël Hererias, attachés à leur territoire, celui de leur enfance, de leur adolescence en commun, à celui de leur ville aussi, Saint-Étienne. Alors Terre Noire cultive des chansons passionnées, passionnantes, électroniques, lyriques, mystérieuses, contemporaines. Ils publient aujourd'hui leur premier album, Les Forces Contraires, 34 minutes 05 de musique en apesanteur, un temple à la mémoire de leur père, une odyssée intime, écrite par Raphaël et mise en musique par Théo, une musique toujours émouvante qui tend vers un Black Paradiso, un appétit d'ailleurs, d'horizon infini, un Black Paradiso qui fait le lien entre leur musique et leur vie, leur existence. Bonsoir messieurs, alors Théo, t-shirt blanc, Raphaël, t-shirt noir, mes cheveux bouclés pour tous les deux, bienvenue dans Côté Club.
Salut.
Merci.
Ça va?
Ouais.
Très très bien.
Très bien.
Très bien, très heureux d'être là encore.
Ah, nous aussi. Premier titre ce soir, c'est celui qui tourne en playlist sur France Inter, un titre qu'on adore, Mon âme sera vraiment plus belle pour toi. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour cet album?
Ouais, Mon âme sera vraiment belle pour toi, c'est le titre peut-être le plus lumineux,
ouais.
Peut-être le plus heureux.
Ouais.
Et vu que le disque est, bon, il s'appelle Les Forces Contraires, il est vraiment tiraillé entre cette énergie de vie et puis la mort qu'on a traversée. Et donc on avait besoin, quand on a fait des titres très très chargés, très intenses, on a eu vraiment besoin de faire des titres, les titres les plus solaires et heureux qu'on ait jamais fait. Et je trouve que ça raconte assez bien le disque, c'est-à-dire que ces énergies éprouvantes, les choses qui nous éprouvent, tout d'un coup permettent de créer des grandes entailles de lumière comme ça dans la vie. Et Mon âme sera vraiment belle pour toi, et un peu ça quoi.
Bon, on vous écoute, tout de suite en live, ouais. Dans Côté Club, Terre Noire.
Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur, alors je te dis ces choses, ces mots dont je suis sûr. Oh mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le clair. Être en cul avec ce que je ressens, avec ce que tu es. Je suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, l'hiver à l'envers. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien que c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble.
La chanson qui arrive, c'est la première chanson, le tout premier extrait qu'on a sorti des Forces Contraires qui s'appelle Baise-moi.
Baise-moi,
J'ai passé tous les jours à travailler, à compter tous les instants qui m'ont tenu loin de toi. Les passants sont si snobés, si stressés, on dirait qu'ils savent pas le pourquoi qu'on est là. Mes habits seraient faits pour être touchés, ma peau pour être touchée, c'est ta terreur sur moi ça. Et ta bouche est faite pour être embrassée, ta voix faite pour se briser sur un continent de braise. Baise-moi, 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 baise-moi,
comme si j'étais à toi.
Baise-moi, 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 baise-moi. Et ce soir tu veux bien passer chez moi, j'ai très envie de te revoir, très envie d'être avec toi. On peut jouer à ne rien se dire du tout, moi tu sais bouge cousus, baïonner, faire du cul. Ouais j'espère que mes voisins seront sourds, car la musique de l'amour aura l'odeur du tonnerre. C'est pas vulgaire, moi j'ai très envie, c'est tout. Tu sais je t'aime comme un fou, même si tout ce qu'on dit est cru. Baise-moi, 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 baise-moi,
comme si t'étais la vie même.
Baise-moi, 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 baise-moi,
comme si j'étais à toi.
Comme si t'étais la vie même. Comme si j'étais à toi. Comme si t'étais la vie même. Comme si t'étais le feu. Comme si t'étais la vie même. Comme si j'étais à toi. Comme si t'étais la vie même. Comme si t'étais le feu. Comme si t'étais la vie même.
Terre Noire, merci. Sur France Inter dans Côté Club en live. Merci Théo, merci Raphaël, rejoignez-nous. Je donne quelques dates de concert. Saint-Étienne, c'est chez vous le 3 octobre, le Mama Festival à Paris le 14, les Primeurs de Massy, ce sera le 29 octobre, et deux Boules Noires à Paris, 23 novembre et 11 décembre. La prise de son ce soir est assurée par Fabrice Desmaz et Raphaël Rousseau. Merci messieurs. C'est un peu la semaine de la famille dans Côté Club cette semaine, parce que mercredi on recevait Fiscara, lui aussi de Saint-Étienne, vous le connaissez, j'imagine.
Bien, hein. C'est un très bon copain. Ouais, bien
lui
sûr.
Aussi en couple musical avec son frère Francis. Ouais. Vous, vous avez commencé la musique ensemble depuis vos tout débuts.
À vrai dire, j'ai commencé la musique avec mon grand frère,
Raphaël,
Romain, et mon oncle.
Ouais.
Et Théo, on a 6 ans de différence, qui est plus jeune que moi. Et du coup, ça s'est passé comme ça en deux temps. Donc plutôt dans un second temps, ensuite la musique avec Théo.
Et avec votre frère et votre oncle, quel genre de musique vous jouiez?
On avait écrit un opéra rock.
Ah,
enfin, eux deux avaient écrit un opéra rock dans lequel je jouais, qui s'appelle The French Café, avec la maîtrise, une chorale d'enfants à Montbrison, une commune à côté de chez nous. C'était trop bien. Moi, c'était une des premières expériences de scène un peu véritable, costaud. Je jouais de la guitare électrique, j'étais hyper timide.
Vous aviez quel âge ?
Là, j'avais, je sais pas, 15, 16 ans.
Ouais.
Et notre oncle nous a fait monter sur scène tous, quoi. Donc, ça a vraiment été lui qui a inoculé le virus de la musique très, très, très jeune chez tout le monde.
Vous savez, c'est passé comment aussi le virus de la musique, Florent Marché? Parce qu'on sait que les parents sont férus de musique, ils ont créé un festival, plutôt très reconnu d'ailleurs, de chansons françaises,
ouais.
Il y a aussi une scène, ouais. C'est eux?
Oui, ben, je suis un peu tombé dans la marmite comme eux, en fait. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais faire autre chose que
ça,
que de la musique ou écrire. C'était un truc qui était. Je me demandais même pourquoi j'allais à l'école, en fait, parce que c'est vrai que
je vois ce que tu veux dire.
Ah, mais ils sont très impressionnants. Enfin, moi, j'adore le premier EP que j'ai écouté en boucle, et je les avais pas vus en live. J'ai très très envie de les voir sur scène parce qu'ils sont complètement habités, complètement connectés, enracinés dans leur musique. Les deux voix sont magnifiques.
Merci beaucoup.
Et puis aussi physiquement, la gestuelle, tout, c'est...
Ah, il y a quelque chose en
ils
tout cas.
Ils ont tout donné
entre
sur
les
la Corée ce
frères.
Soir. Hein,
c'est intéressant. Ouais. Vous parlez des deux frères, vous parlez du EP, c'était en 2018, qui a été salué par les Inrocks, qui a été salué aussi, vous avez
par
fait
France
des
Inter.
Inouïs, enfin, par France Inter, enfin, ouais, tout le monde était derrière vous. Aujourd'hui même, vous sortez votre premier album.
Oui, les forces contraires.
Alors, c'est bizarre de sortir aujourd'hui un premier album parce que ça ne sonne pas comme quand on sortait un premier album, par exemple pour vous, Florent Marché.
Dans mon vieux temps.
Ben ouais, en 2004, je sais pas, on allait à la Fnac, par exemple, pour voir s'il était bien dans les bacs. Ou pas.
Oui, ça, c'était important, en tout cas. Ouais. Il y avait pas encore les EP, effectivement, et puis il y avait moins la culture du single, encore moins du clip, en fait. Oh, ça fait super longtemps, c'est terrible. Mais oui, enfin, on considérait un album comme une chose extrêmement sérieuse et importante. C'était un tout. On se voyait pas enregistrer deux titres comme ça. Quoi. C'est...
Nous, on a quand même pensé ce disque un peu comme un album. Enfin, en tout cas, il était particulier pour nous parce qu'on avait des choses à dire qu'on pouvait pas juste balancer comme ça. Donc je disais tout à l'heure l'énergie de mort et de vie. On a perdu notre papa en août 2018 et donc c'était un sujet. Enfin, c'est pas un sujet. C'est un truc un peu étrange à vivre quand il s'agit d'écrire son premier album. C'est pas le truc où on se dit tiens formidable. Donc comment on faisait avec cette réalité, avec cette chose au milieu de la vie qui était la mort. Comment on pouvait la traiter et en même temps en faire un album en entier et faire je pense, Marion, tu as parlé tout à l'heure de temple. C'est exactement ça. On voulait comment on pouvait sanctuariser, faire un deuil d'une certaine manière, tout en le faisant avec son frère. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu particuliers. Et en même temps, trouver de la lumière, au contraire, c'est-à-dire trouver une énergie de rebond, une énergie de régénération. Et c'est ce qu'on a essayé de chercher à l'intérieur de ce travail, c'est-à-dire aller vers les ombres, les accueillir, et puis faire des chansons beaucoup plus légère, sexuelle, comme Baise-moi, ou vraiment très amoureuse, très candide, comme Mon âme. Et il y a des chansons, comme Derrière le soleil, qui parlent très frontalement de la mort. Donc voilà, on a essayé d'être très intime, impudique, je crois. Et en tout cas, on avait besoin de le vivre comme ça. Et puis, ouais, on est heureux de cet album. Enfin, on sait pas trop ce qu'il est, parce que on verra comment les gens vont le recevoir. On est un peu fébrile, flippé, quoi. Mais...
Oui, par rapport en plus à la période que l'on vit, même si vous avez des concerts, d'ailleurs, comment vous allez imaginer les concerts à venir?
Ah, c'est la période, c'est marrant, c'est un espèce de rajout supplémentaire pour notre premier album, pour nous, c'est-à-dire, c'est notre premier, puis il se passe là. Donc nous, c'est notre réalité, toute notre vie, le premier album, ce sera pendant la pandémie. Donc je sais pas, et en plus, il y a quelque chose qui est lié, cette énergie un peu étrange. Donc c'est pas tellement un problème, parce que nous, c'est notre premier geste, quoi, et puis on va le vivre à travers ça. J'aimerais bien qu'on puisse... J'ai pas peur des petites jauges et des petites choses intimes. Je pense que ça va ressembler à ça. Les gens assis, c'est pas grave aussi. C'est bien d'être assis. Et les masques, on fera avec. Voilà.
C'est bien aussi d'être masqué.
Ouais. Bah, si ça protège les autres,
bah, oui, bien
ça
sûr.
Protège les autres.
Il y a quelque chose, moi, je trouve, qui a un petit peu évolué dans. Enfin, le son a évolué dans votre travail. Et puis, il y a également le travail sur les voix, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux voix.
Ouais, pas mal de choses ont changé. Déjà, je me suis mis à chanter.
Théo.
Théo.
Ouais, sur quelques titres, je prends la voix lead. Donc ça a quand même un autre timbre qui tape à la porte.
Mm-hmm. Et des textes aussi.
Et les textes, du coup, par conséquent. Et avec Raphaël, non, c'était vraiment l'idée. En fait, on a eu comme idée de conception du coup d'ouvrage architectural qui sous-tendrait toute la... Tout l'album, on appelait ça l'atrium, c'est dans notre tête, ça reste dans les coulisses, mais ça s'appelle l'atrium. Et du coup, ça nous a donné comme une espèce d'espace architectural, et du coup, le son et la manière d'envisager toutes les choses, bah, elles étaient déjà dessinées là.
Ouais, on voulait que ça vive avec un type de réverbération, des voix, une ouverture au plafond, enfin, c'était un truc un peu conceptuel, mais en tout cas, ça nous a aidé à pas trop nous éloigner du son qu'on recherchait.
Vous parlez beaucoup avec les mains?
Bah, on est peut-être un peu méditerranéen.
Un tout petit peu.
Non, mais c'est vrai. Même quand
beaucoup
vous.
Même
tout à l'heure, on parlait presque de chorégraphie, en effet, sur scène. Il y a quelque chose d'assez physique, en fait, dans la façon que vous avez de.
On vient du rock.
D'intervenir.
Notre tonton nous a fait du rock dès le plus jeune âge et nous a appris à sanctifier le moment de la scène, c'est-à-dire qu'il faut être surpuissant dans le sens où on n'a plus de force qui reste à l'intérieur. Et du coup, dans des musiques qui, somme toute, en live sont enregistrées. Bah, c'est le moment où, du coup, il faut embrasser
incarner très fort.
Le corps, parce qu'on ne voit pas des instrumentistes, il faut vraiment avoir
une grosse aura. Ouais. Il y a aussi les matières.
Florent Marché.
J'adore les matières, la façon de spatialiser aussi les voix. C'est assez. Tout ça est très pensé, en fait. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez. Évident et spontané.
Ouais, puis on parle souvent des textes quand on parle du disque et des sujets, mais Théo est un extraordinaire, mon frère est un extraordinaire producteur et réalisateur de musique. Enfin, voilà, je le dis, parce qu'on n'en parle jamais.
Si, Raphaël,
non, mais c'est vrai.
C'est une évidence.
C'est un excellent, un incroyable artiste et très architecte, justement, pour parler des espaces et des matières. Moi, j'ai toujours vu Théo comme il fait il fait des architectures sonores et tout. C'est pas pour jeter des fleurs sur nous-mêmes, mais on se le dit pas souvent et je rebondis là-dessus.
Non, mais ce que veut dire Raphaël, c'est que je pense, ouais, en effet, j'aime bien. J'ai toujours écouté énormément de musique chorale. Et pour moi, la musique chorale, c'est la musique concertante. Et la musique chorale, elle était faite dans des espaces qui étaient très, très, très. Enfin, on n'aurait jamais pu faire de la musique chorale si ça n'avait pas été dans des grands espaces réverbérants ou tel autre style n'aurait pas pu générer la même musique selon son espace. Et du coup, c'est hyper important de considérer les espaces dans la musique et comment on perçoit mentalement un espace à l'intérieur de.
C'est pour ça que vous parlez d'atrium tout à l'heure.
Oui, exactement. C'est exactement pour ça. Et on en revient à l'atrium. Du coup, l'atrium pour moi, c'était bétonné. Et du coup, je sais que toutes mes réverbérations, elles viennent d'endroits qui ont été plus ou moins. Enfin, les samples de réverb, puisque j'utilise des plugins, donc des logiciels, ça vient d'endroits qui sont que des trucs en béton. C'est très bizarre.
Mais les sons, ils sont en même temps très, très charnels et très puissants aussi.
Oui, il y a toujours le bonheur de l'organique, pas aussi du froid bétonné, mais.
Ouais, pas du tout, oui.
Mais on peut mettre, je sais pas, une grande tenture en peau sur le béton, mais comment dire.
Il y a beaucoup. Le côté organique qu'on aime bien trouver dans les synthétiseurs et les sons, c'est souvent, ils sont détunés un peu, désaccordés. Mm. Et le numérique, c'est le côté froid et de la perfection. Et nous, on désaccorde tout le temps, tout. Mm. Et tout d'un coup, ça vient comme ça vibrer, comme une guitare qui serait pas tout à fait.
Faut pas donner vos secrets.
Alors justement, je voudrais savoir vos secrets à vous, Florent Marché. Vous travaillez dans la même conceptualisation, en fait, de l'espace, ou vous avez, vous, une autre approche quand vous pensez la production du disque, des albums?
Je le pense par, je sais pas, moi j'ai pas mal d'instruments, j'aime bien partir de l'acoustique et puis après travailler avec ce qu'on appelle des plugins aussi, mais partir vraiment de l'électroacoustique. Après, je dis que j'aimais jouer, en fait, voilà, j'ai plein de jouets autour de moi et puis je les sélectionne en fonction du morceau et depuis peu de temps, en fait, et c'est ce que Terre Noire arrive à faire formidablement bien, je travaille à partir de la voix vraiment et j'habille les sons en fonction de la voix, ce que j'ai pas toujours fait, c'était une erreur.
Du son de la voix, c'est ça que tu veux dire?
Oui, du son de la voix, du traitement de la voix. Comment, à partir de ce son-là, on va faire intervenir les autres éléments, en fait?
Marion.
Depuis vos débuts, Terre Noire, vous insistez sur l'endroit d'où vous venez, c'est-à-dire Saint-Étienne et le quartier de Terre Noire. Vous lui devez votre nom. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous lui devez à ce quartier? Qu'est-ce qui se joue dans cette histoire de territoire?
Est-ce qu'il est aussi gai que le nom?
C'est une terre de mine, c'est une terre d'immigration de nos ancêtres. Nous, on est heureux de vivre, puis parfois on est malheureux. Mais comment dire, c'est un hommage plus qu'un hommage à un truc difficile ou un truc heureux. Nous, ça a été c'est un territoire d'enfance, tout simplement. Et c'est un territoire qu'on a quitté. Enfin, en tout cas, on n'y vit plus aujourd'hui.
Ouais,
notre mère
y
vit encore. Ouais, on vit à Paris. Et c'est très simple. On aimait le nom, parce que depuis qu'on est gamin, on trouve ça marrant. Si on s'était appelé Tardy, c'est un autre quartier Saint-Étienne, peut-être qu'on n'aurait pas fait un groupe qui s'appelait Tardy. Mais en tout cas, on se fait une promesse en s'appelant Terre Noire de pas oublier d'où on vient, tout simplement. C'est un peu bête et méchant, mais c'est très très important pour nous.
Florent, vous avez aussi beaucoup écrit sur l'endroit d'où vous venez. C'est du même ordre?
Oui, c'est pas pour oublier parfois. Enfin, je veux dire que j'aurais aimé oublier, mais c'est vrai que lorsqu'on vient d'un milieu rural et de la province, c'est difficile de s'en détacher. Je pense qu'on passe sa vie avec de la boue sous les pieds, en fait. Il y a quand même ce complexe du rural qui est toujours présent.
Encore aujourd'hui?
Ah oui, bien sûr.
Et tu vis à Paris?
Je vis en banlieue. Ouais. Non, c'est terrible. C'est une chanson de Brel. On vit tous en province quand on vit trop longtemps. Mais entre temps, on fait un stop.
C'est pas mal vu. Ouais. Je connaissais pas, mais c'est vraiment pas mal vu. Ouais. Tout à fait.
Juste un dernier mot sur vos influences qui sont multiples, Terre Noire. Et pendant le confinement, vous en avez profité pour enregistrer une reprise de la plus grande pop star du moment, on peut le dire. Hein. C'est celle-là, on l'écoute.
J'ai bien cru que l'on se noirait en solitaire. Aucun doute, on y passait, mais la vie m'a fait des frères pour tenir debout sur la terre. Si les années sur nos peaux font des chevaux blancs, laissons-les sur les plaines prendre l'océan. Et si rien ne vaut la peine, si plus rien n'est bon, on fuira, c'est pas important.
Une adaptation, enfin une réécriture même du morceau de Billie Eilish, Everything I Wanted, renommée des trésors. Vous avez encore quelque chose en commun finalement avec elle, puisqu'elle travaille avec son frère
ouais,
aussi.
Ouais. Bah, l'histoire de la chanson, on l'a reprise celle-ci, c'est une chanson que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup avec Théo. Elle parle de la relation qu'elle entretient avec son frère Phineas, qui est aussi le producteur de sa musique. Qui chante aussi, enfin qui est extra, aussi, au moins aussi extraordinaire qu'elle.
Oui, c'est son Théo, quoi.
Ouais,
c'est son Théo. Bah oui,
c'est son bro.
C'est son bro.
C'est son super bro. Et donc cette chanson parle de ça, de ce lien et de ils vivent ce truc incroyable d'être des hyperstars. Alors c'est pas notre histoire du tout, mais en tout cas, on trouvait marrant juste avant un disque de choisir cette chanson, de pouvoir la réécrire. Et on parle quasiment que de ce qu'on ressent avant de sortir un album. On est allé chercher des trésors à l'intérieur de la vie pour les ressortir, et ensuite si ça marche pas, on s'en fout, on se barrera et on fuira. En gros, c'est un peu ce que dit la chanson. Et puis on parle aussi de nos frères, notre grand frère aussi, Romain et tout ça.
Terre Noire, vous restez avec nous, Florent Marché aussi. On va quitter le studio 621, on va partir du côté de Toulouse à la recherche de Bertrand Betsch, qui a sorti en juin un album somptueux, le 14e. Titre, c'est La Traversée, pour un disque qui sonne noble, avec clavecin, cordes, des mélodies amples et des textes à tomber. Mais quand est-ce qu'on va enfin se rendre compte qu'on tient là un de nos plus grands auteurs? Alors cette traversée commence à la nage, puis la vie remue, et ça finit sur Le Bonheur. Il aura fallu 10 titres pour s'en approcher. Le Bonheur à portée de voix, Bertrand Betsch, sur France Inter.
Au détour d'une vallée, d'un col dur à grimper, au sortir d'un fossé ou d'un ciel chaviré, avant l'extinction des feux, après bien des adieux, il est là en vainqueur, il est là l'enchanteur, à l'endroit du cœur, en flanelle sur le cou, comme un colis de fleurs, comme une levée d'écrou. Dans le froid, la chaleur, après l'amour, la douleur, après bien des erreurs, il est là, le bonheur. Et même si l'on meurt, on aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur. Après bien des malheurs, on aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur. La blancheur saignée de la rosée, aux premières lueurs, le dernier de cordée. On ne l'attendait plus, pourtant il est venu. Le regard rieur, le sourire enjôleur. Au détour d'une rue, croisé dans l'escalier, il nous a reconnus, un sourire échangé. Après qu'on ait eu si peur, bien souvent déserteur, comme un grand voyageur, on atteint le bonheur. Et même si l'on pleure, on aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur. Même s'il arrive à pas d'heure, on aura eu du bonheur, du bonheur, du bonheur. En avance, en retard, qu'est-ce que ça peut faire? Sur le quai d'une gare, comme surgit de terre, posé sur le sol, il est là qui décolle, comme un bel aviateur, il prend de la hauteur. Je suis là enfin prêt d'esquiver, j'avais tort, mais j'ai tiré un trait, je suis prêt, en accord, il s'approche de moi, il est temps, il est l'heure, pour la première fois, on me soulève le bonheur.
Pour la première fois me soulève le bonheur comme un accord majeur, on aura eu du bonheur dans les grandes largeurs, on aura eu du bonheur. Ce sont les dernières paroles de ce 14e album signé Bertrand Betsch qui se trouve quelque part dans Toulouse. Bonsoir Bertrand Betsch.
Bonsoir à tous, salut Florent.
Salut.
Ouais, je sais que vous vous connaissez, vous êtes où exactement là à Toulouse? Chez vous?
Oui, je suis dans mon appartement.
Vous avez un studio dans votre appartement?
Jérôme Studio.
Ah, je m'en doutais. Vous êtes installé à Toulouse depuis combien de temps?
Une dizaine d'années.
Loin de Paris, donc. Est-ce que c'était un exil, une retraite, un refuge?
Ben, en fait, j'ai quitté Paris pour une raison très, très particulière. En fait, j'ai été comme frappé d'invisibilité. Bon, à Paris, il y a beaucoup de pigeons. Il y a plus de pigeons que d'habitants, en fait. Et en fait, les pigeons ne me calculaient plus. Et je devais sans cesse les esquiver, un peu comme dans les oiseaux de Hitchcock.
Ouais.
Et par ailleurs, quand je m'asseyais à une table de café, je repartais une heure plus tard sans qu'un serveur se soit avisé de ma présence. Donc, et en repensant à cette période-là, à Paris, mais putain, je crevais de solitude, quoi. C'est vraiment une ville où on se dissout, quoi.
Florent Marché, vous partagez ce sentiment d'invisibilité? On vous sert des cafés quand vous êtes dans un café?
Je vais rarement, en fait, à Paris pour prendre des cafés.
Et ben donc voilà. Voilà.
C'est pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise.
Alors, vous connaissez, hein, Florent Marché et puis Bertrand Betsch, même génération, né dans les années 70. Le premier album de Bertrand Betsch est en 97, premier album de Florent Marché en 2004. Vous évoluez dans les mêmes sphères, vous avez partagé des scènes ensemble. Qu'est-ce qui vous rapproche, en fait, Bertrand?
Qu'est-ce qui nous rapproche? Ben, je crois que on a chacun essayé de trouver notre propre idiome, de creuser notre chemin dans la chanson française à une époque où en tout cas en 97, il se passait pas encore grand chose, quoi.
Florent, oui, on a une même passion pour la mélancolie aussi, pour l'indépendance,
pour la mélodie, grand mélodiste, pas d'autre.
Ouais. Et l'indépendance aussi, enfin, ça s'est fait un peu malgré nous, mais on aime être indépendant dans la façon de produire nos albums, nos chansons.
Alors, nouvel album Traversée, somptueux, hein, je disais, avant de passer le bonheur. Il y a quelque chose qui a bougé vraiment avec ce disque. J'écoutais les textes et puis il y a un leitmotiv d'apaisement qui parcourt les chansons. On a écouté donc le bonheur, mais dans Les Embardés, vous chantez « Tu verras, on s'en sortira, tu verras, on y arrivera ». Dans La vie remue, vous dites « Je sais le ravin, je sais le danger et la nuit sans fin, j'en fus exténué, du plus reculé, je suis revenu, réenchanté en moi la vie remue ». Vous êtes revenu de loin, Bertrand Betsch?
Non, en fait, c'est un peu fictif tout ça, parce que le bonheur, en fait, c'est une chose qui m'est totalement étrangère. Par contre, la joie, oui, mais c'est les moments. La joie, c'est éphémère. Mais disons que j'ai appris au fil du temps à ne plus seulement considérer le chagrin du monde, mais aussi à mettre en valeur la beauté du monde, quoi. Et en fait, cet album, c'est un triptyque avec deux autres de mes albums précédents qui s'appellent Tout doux et La vie apprivoisée, et dont le fil conducteur est le thème de la résilience, qui est un thème qui est arrivé assez tard dans ma carrière. Et effectivement, j'ai appris, comment dire, à affronter le réel et à essayer, en tout cas, de le limer.
Et ça se voit au niveau de la production, hein. C'est un album, on va dire, ample, noble, avec clavecin, violon, clarinette. Qu'est-ce que vous avez cherché avec ces instruments, Bertrand Betsch?
En fait, c'est un album qui est paru l'année de mes 50 ans.
Ben oui.
Et bon, 50 ans, c'est un stade un peu particulier pour un homme. On a plus de dernière fois que de première fois. Et on se retourne un peu sur son passé. On fait un peu le bilan. Et bon, je savais que cet album que j'ai écrit en 2015-2016 sortirait l'année de mes 50 ans. Donc je voulais pas faire un album de plus. Je voulais vraiment faire un disque idéal, entre guillemets. Et c'est vraiment... Alors, c'est... Comment dire? J'ai fait vraiment ce disque comme si c'était le dernier, quoi. Et pour ça, j'ai eu la chance d'être accompagné par toute une équipe, ma maison de disques, Microculture Records, un gros producteur, Marc Denis, avec lequel je travaille depuis longtemps, et une dizaine de musiciens, de sorte que c'est vraiment une œuvre collective qui, du coup, me dépasse, quoi, parce que c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais faire tout seul dans mon coin, quoi.
Juste une chose, on vient tous de réagir, parce que même Florent Marché, je l'ai vu, était très surpris. Vous avez composé ou pensé à cet album en 2015 pour les 50 ans, donc pour 2020.
En fait, quand j'ai fait toutes les chansons, j'ai terminé l'écriture en 2016. Il y a juste Le Bonheur que j'ai écrit en 2018, que j'avais écrit pour Vanessa Paradis, mais ça n'a pas marché. Et en fait, je savais que c'était un album qui demanderait des moyens financiers, parce qu'il fallait vraiment que ce soit très arrangé. C'est les chansons qui appelaient ça. Du coup, j'ai attendu le moment propice pour la recherche des subventions et pour avoir les moyens de réaliser cet album. Voilà,
un
album rêvé.
Un album rêvé qui est tombé au pire moment, puisque avril 2020, on était en plein confinement. Vous avez écouté l'album, Florent Marchais ?
Oui, 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 je l'ai écouté.
Il y a une chanson ou quelque chose dans la production qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, bah moi j'étais frappé par justement le retour aussi à quelque chose de plus acoustique et étonnamment plus apaisé, en fait. Mais je suis pas surpris, je croise Bertrand de temps en temps et il est même devenu très drôle, en fait.
C'est ce qu'on a
à la base.
Moi, toi, Florent.
Vous étiez sinistre auparavant. Avant les 50 ans, vous étiez sinistre, c'est ça ?
Non, j'ai toujours eu un sens de la dérision, mais les gens ne comprennent pas toujours parce que je pratique beaucoup l'humour à froid et le second degré.
14 albums depuis 1997, salués par la critique, mais sans vraiment la reconnaissance populaire, sans le grand succès, sans le single qui fait tout démarrer. Est-ce que ça vous a blessé ?
Blessé, non, mais disons que oui, je me considère un peu comme le passager clandestin de la chanson française, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un article qui paraît sur moi, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent, c'est-à-dire comment ça se fait qu'il n'est pas plus connu. Et autre chose, on me dit depuis, ça fait 23 ans qu'on me dit ça, mais pourquoi tu n'écris pas pour les autres ? Mais jamais on me sollicite, quoi. Donc après, je sais pas, c'est un karma, hein, c'est un karma particulier. En tout cas, l'important, c'est de produire une œuvre. Hein. Après, j'ai des retours, c'est vrai que j'ai un public qui n'est pas extrêmement large, mais j'ai des retours tellement forts. Il y a des gens qui me... Je repense à une... Enfin, je ne devrais pas le dire, mais repense à une femme qui m'a dit, voilà, pendant mon accouchement, j'écoutais telle chanson, Ce ventre-là, qui parle de mettre au monde un enfant. Pendant mon accouchement, enfin, c'est des trucs... En fait, mes chansons accompagnent de façon très intime la vie des gens qui me suivent. Quoi.
Vous vivez...
Ça, c'est très fort comme retour. Ça fait vraiment vachement du bien. Quoi.
Vous vivez de la musique, Bertrand Betch ?
Pas entièrement. C'est une partie de mes revenus, mais je suis obligé de composer avec d'autres choses à côté.
Bertrand Betch, vous venez de sortir, vous, votre 14e album, Terre Noire, en face de nous, c'est leur premier album. Dans un de vos journaux de bord publiés sur Internet, Terre Noire, vous évoquez la peur de ne pas réussir dans la musique. Ce serait quoi pour vous, ne pas réussir dans la musique ?
C'est une bonne question. Parce que... On met le succès. Je trouve que c'est très extérieur l'idée du succès. Et de plus en plus on avance. Enfin, je sais pas, la période, je trouve, interroge vachement ça. Vers quel monde on se dirige et qu'est-ce qui à l'intérieur de notre succès est responsable d'une forme de conquête un peu insupportable de tout. Bref, ne pas réussir, c'est nous, on n'a pas fait d'études spécialement en fait. Donc on a tout misé. On a fait le all-in sur la musique. Donc c'est juste ça. Ne pas réussir, c'est-à-dire à un moment donné devoir renoncer. À ce rêve et à cette matière musicale, justement, qui emplit nos journées depuis des années. Maintenant, on a une chance inouïe. On en vit un petit peu. Et voilà, ça ce serait la terreur, la trouille, ce serait ça. Le vide de ne plus pouvoir faire de musique.
Bertrand Betch, vous êtes sur un prochain album, puisque celui-là, vous l'aviez commencé en 2015-2016.
Là, j'en ai 5 qui attendent.
Mais vous êtes le Amélie Nothomb de la chanson française, c'est pas possible.
Ah non, m'insultez pas.
C'est correct. Non, je parle de la profession.
me faire traiter d'Amélie Nothomb. Alors là, je suis choqué. Hein. En fait, le truc, c'est que quand j'ai sorti mon premier album en 97, j'avais déjà une grosse centaine de chansons à mon répertoire. Et ce qui me paraissait normal, parce que pour moi, il faut faire ses armes en tant que songwriter. Et là, je réalise que, parce que je suis les jeunes pousses de la chanson française, qu'en fait, ils font un album et puis, arrivé au second, bah, ils ont plus de matière, ils n'ont pas de réserve, en fait. En gros, en 23 ans, en 25 ans, ouais, 23 ans, disons, j'ai écrit 250 chansons.
Oui, c'est ça.
C'est une sorte de corpus dans lequel je puise selon mes envies et mes besoins.
Toujours un coup d'avance. Merci beaucoup Bertrand Betch. On va quitter Toulouse, on retourne au studio 621, direction la nouvelle scène québécoise avec Louis-Jean Cormier qui a fait un détour par Los Angeles pour écrire, je cite, sur le fucking va-et-vient des amours à distance. L'amour est une course d'obstacles, il faut tenir la distance sur le 100 mètres haies.
« mètres. Hey. Dans le sang, j'ai. Je vois ton reflet dans la vitre. De l'espace pour écrire. C'est large comme le ciel. Je me réentends te dire que je connais pas la suite. C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé derrière. Je fais tourner des photos dans une main pendant que l'autre se croise les doigts. Moi, mon rêve américain, c'est celui qui me ramène. Sans remarquer les klaxons, même le signal pour piétons. Pas pitié de mon allure. Qu'est-ce qui m'a pris de croire que je partais pour de bon? C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé. C'est celui qui m'amène à toi. Je fais 100 km et à la vitesse du son. Par-dessus les boulevards, les bars et les moments d'absence. Ça vient qu'il y ait l'idée de s'éloigner pour mieux voir venir le fond. Encore le fucking va-et-vient des amours à distance. Mes larmes se mélangent à l'eau salée sur mes lèvres. Au rythme des vieux pipes pilés de pieds dans l'océan. Je fixe le soleil embrouillé qui se lève. Je m'imaginais pas que tu m'entrais autant. Pourquoi il faut toujours que je me rende si loin?
Côté club.
Sur France Inter.
C'est ce son qu'on entend en bagnole en plein milieu de votre premier roman Le Monde du Vivant, Florent Marché, Cream on Chrome de Ratatat. Une explication sur ce titre qui s'affiche dans la voiture du père de famille.
Oui,
en plein milieu du livre. Hein.
En plein milieu du livre, j'aimais bien l'idée d'une chanson qui soit pas une chanson de grande variété comme le père aurait pu mettre. Il met un peu une... On a l'impression peut-être que c'est son jardin secret d'aller écouter une radio qui passe des choses un peu plus alternatives, en tout cas...
Que du Michel Delpech.
Voilà.
Parfait. Premier roman pour vous, et manifestement il vous touche de près. Ça se passe dans le milieu paysan, vos grands-parents étaient agriculteurs, ouvriers agricoles corrects.
Oui, mais taillés, quoi.
C'était important pour le premier roman de retourner aux racines, en fait, aux origines? De parler d'une certaine façon?
Mon rapport au monde rural, ouais, c'était important. En tout cas, j'avais besoin de parler de ces lieux, d'en parler de manière un peu impressionniste aussi, la façon dont j'ai de les... J'ai besoin régulièrement de revenir dans la campagne, d'y passer du temps. Donc j'avais besoin de... En tout cas, je sentais que c'était un territoire suffisamment ancré dans ma mémoire affective pour pouvoir écrire dessus pendant des longues semaines, de longs mois.
contrairement à ce que l'on fait pour une chanson.
Ouais, c'est une fulgurance, la chanson, ça peut s'écrire très très vite.
Même si le monde dont on parle dans ce roman, vous l'aviez déjà abordé dans les chansons pure fiction, c'est l'histoire d'une famille, mais plutôt d'un père et de sa fille. Jérôme est ex-ingénieur agronome, il s'est installé à la campagne avec sa femme Marion et ses deux enfants. Son but, c'est travailler le bio, respecter la terre, bref, contre le fonctionnement des fermes productivistes. Un travail harassant, un engagement qui va l'éloigner progressivement de sa famille. Deuxième personnage clé, c'est Solène, sa fille, elle a 13 ans, en révolte, c'est normal, contre son père, avec un mélange de honte sociale pour cette adolescente fascinée par les codes bourgeois de ses copains de bahut qui font du tennis. La vie n'est pas facile et un accident, la mère Marion va se blesser avec une machine agricole, va faire intervenir un nouveau personnage, un woofer.
Oui, c'est un petit peu comme si un chien éternuait, en fait, le mot woofer, c'est pas très beau, mais c'est pour désigner, ça existe depuis, je crois, les années 60, un ouvrier agricole bénévole, enfin, qui vient travailler dans des fermes pour, contre le gîte et le couvert, ce qui permet à des jeunes, notamment, de faire des tours du monde, parce qu'on peut faire du woofing partout, en Chine, en Amérique du Sud, voilà, et ils vont rencontrer ce jeune Théo.
24 ans, et là, plus rien ne sera comme avant. Je ne vais pas dévoiler notamment la fin qui se finit de façon pas si mauvaise que ça, d'ailleurs. Je pensais que ça allait être vers le carnage, mais pas du tout.
Moi aussi.
Bref, parce que vous n'avez pas de plan. C'est ça?
Oui. Attention.
Vous n'avez pas de plan, c'est ça? Vous ne connaissez pas la fin quand vous commencez le roman?
Mais je ne connaissais même pas le début, je ne savais pas où allaient mes personnages. Je me suis mis à écrire comme ça.
Vous faites la même chose quand vous écrivez une chanson?
Non, étonnamment. Étonnamment, j'ai besoin d'une sorte de thématique, mais je me laisse quand même porter après par cette thématique-là, avec les mots qui arrivent. Mais c'est tellement court une chanson que c'est on a besoin de cadrer. J'ai l'impression, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce roman depuis des années, d'écrire au long cours. J'aime écrire des chansons, mais je trouve que il y a beaucoup plus de contraintes entre la versification, la mélodie, les sonorités, tout ça. Et là, j'ai eu envie de m'installer dans ce village que je connais bien, qui est très proche du village où j'ai grandi. Mais j'avais besoin que ça se passe aujourd'hui. J'ai eu envie, moi, mes grands-parents, avaient donc cette ferme qu'ils n'ont pas pu reprendre au moment où elle a été vendue. L'ironie du sort, c'est que mon grand-père est devenu ouvrier dans une usine qui fabriquait des machines agricoles, alors qu'il avait quitté donc la ferme qu'il adorait. Et cette ferme aujourd'hui est à l'abandon. J'ai voulu reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée, mais de manière un peu fictionnelle, et puis en mettant un peu de ce que j'avais vécu, et aussi mon expérience de père.
Alors, c'est un roman familial, doublé d'un roman social qui ne fait pas l'économie du malaise paysan, les difficultés rencontrées, avec même une dimension réquisitoire politique au détour d'un repas du dimanche. Solène explique que son cours d'histoire est relou, et le père va s'engouffrer dans la brèche pour lui faire un cours sur le plan Marshall, responsable de Monsanto et Bayer. Vous avez accompagné sur Facebook, je vous ai suivi, et sur Instagram, la sortie du livre. Vous avez posté 10 extraits lus par des proches, et pas des moindres, Eric Caravaca, avec lequel vous avez déjà travaillé, Irène Jacob, j'en passe, et Patrick Mill, qu'on écoute dans cet extrait.
Jérôme va passer 3 semaines enfermé dans la cabine de sa moissonneuse. Près de 14 heures de travail par jour, avec le bruit de la soufflerie, du broyeur ou du hacheur. Il y a aussi les séances de mécanique à l'aube, où il faut partager un café soluble Maxwell et des tartines de rillettes avec un pétzouille, comme Jérôme les appelle. À savoir à un agriculteur conventionnel, qui ne jure que par la FNSEA, le boursicotage du blé, le glyphosate et le salon au parc des expositions porte de Versailles. Le pétzouille méprise toute démarche écolo, vénère le crédit agricole et confond le terroir avec le territoire. Il prend Jérôme pour un illuminé, un citadin qui veut jouer aux paysans. Le pétzouille n'accepte pas qu'on le traite d'empoisonneur. Il pense que la biodynamie n'est qu'une instrumentalisation complotiste, une idée de bobo déconnecté de la réalité. Jérôme affronte tout ça sans broncher. Il a un business à faire tourner.
Super bien lu par Patrick Mill, et on a bien compris dans cet extrait qu'il s'agit d'un roman, mais aussi d'un discours politique que vous tenez manifestement à travers cette fiction. Moi, je me suis demandé, Florent Marché, vous êtes auteur, compositeur, interprète, est-ce que vous pourriez dénoncer aussi frontalement des pratiques qui vous scandalisent dans le milieu de la musique et de la culture ?
C'est compliqué à travers la chanson. En tout cas, dès que j'ai essayé d'aborder des thèmes comme ça politique, j'ai renoncé à chaque fois. En fait, ça marche pas parce qu'il faut aussi utiliser le second degré et qu'on n'a pas assez de temps, je trouve, dans une chanson pour le faire. C'est une question de format, peut-être. On peut raconter des histoires qui, enfin, je pense que chaque histoire peut être, avoir sa dimension politique, bien sûr, mais pas de manière aussi frontale.
Et dans une tribune ?
Moi, dans une tribune ?
Ben oui, ah de prendre position.
Je m'exprime beaucoup trop mal pour...
Pour pouvoir dire ce qui ne se passe pas bien dans le milieu de la musique, par exemple.
Je pense qu'il y a de grands politiques qui sont surtout de grands porte-parole.
Vous pensez à Mélenchon ?
Par exemple.
Très bien. Florent Marché, je vois que vous n'avez pas bougé. Un premier roman qui ne doit pas faire oublier, la chanson, une histoire d'écriture. Et c'est un ami qui en parle le mieux.
Bonsoir Côté Club, c'est Arnaud Catherine. Je sais que Florent Marché est votre invité ce soir, alors je vous envoie quelques mots à propos de l'animal. C'est un artiste que j'ai rencontré en 2004. On travaille ensemble, on part aux quatre coins de la France ensemble. Et il continue à m'épater 16 ans après. Parce qu'il est inspiré, mais inspiré tout le temps. Qu'il s'agisse de l'écriture, de la composition, des arrangements. C'est un garçon très pudique dans la vie, mais qui va droit au nerf dans ses textes. C'est un garçon extrêmement incisif, très drôle, et qui sait très bien flirter avec les lignes jaunes. C'est un garçon que j'adore regarder composer et enregistrer en studio, parce que c'est une vraie chorégraphie, avec les incompressibles moments où il peste très fort, parce qu'il est très exigeant, ou parce que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un garçon qui dénigre un peu sa voix, et il a tout à fait tort. C'est un garçon qui doute, et on aime les gens qui doutent. Alors, voilà, d'accord, c'est mon ami, mon frère animal et artistique, mais quand même, je pense hyper objectivement que c'est l'un des plus grands. Salut.
Arnaud Catherine, qui est devenu un frère animal,
oui.
Un frère de plume, flirtez avec les lignes jaunes et vous dénigrez votre voix. J'aimerais avoir un commentaire sur ces deux informations. Votre voix d'abord, qu'est-ce qui ne va pas ?
Ah, je la supporte pas, mais ça fait longtemps, c'est pour ça que je voulais pas être chanteur. L'idée d'écrire des chansons, oui, mais après, je suis émerveillé par les interprètes. Mais les choses sont en train d'évoluer. C'est-à-dire que ça fait très peu de temps que je prends plaisir à chanter. Je pense que j'ai passé toutes mes premières années de chanteur à détester ma voix. C'était juste pas possible, et j'avais des raisons de la détester. Je pense que je jouais très très mal de cet instrument. Parce que c'en est un. Quand j'écoute Terre Noire, et je vois la façon dont ils ont déjà de placer leur voix, de la considérer une grande maturité là-dedans. Et c'est vers quoi il faut aller, en fait. Voilà, moi je...
Vous avez pris des cours ?
Pas vraiment. En fait, j'ai décidé de demander d'arrêter de chanter. Ça m'a complètement
libéré.
Ouais. Par exemple, dans les soirées où tout le monde se met à chanter, moi, je suis très content qu'il y ait un piano, une guitare, en me disant c'est génial, j'ai pas à chanter. Je redoute le moment où on me dit c'est comme t'es chanteur, vas-y chante et tout. C'est un truc que je supporte pas.
On vous fait le coup aussi, Terre Noire.
C'est horrible. Mais je pense que c'est comme un comique, on doit lui dire allez c'est ta meilleure blague. C'est horrible. Mais bon, on l'a bien cherché d'une certaine manière.
C'est vrai.
Juste une dernière question, puisque on a entendu Arnaud Catherine. Dans un de ses textes, il dit « Pour écrire, il faut deux secrets, dont un qu'on ne connaît pas. » Quel est ce secret que vous connaissez ? Alors, celui que vous ne connaissez pas, bien sûr, vous ne le connaissez pas, mais celui que vous connaissez, ce serait lequel ?
J'en parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'on passe son temps à reproduire aussi les gestes de ses ancêtres, et pas seulement de ses parents. C'est l'atavisme. Je suppose que c'est pas vraiment un secret, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a empêché aussi pendant des années. Le fait de se poser la question de qui on est réellement, si ce n'est un pantin qui reproduit des choses, d'être empêché par ça. Après, je vais découvrir chemin faisant pendant peut-être la promotion du livre ce que j'ai réellement voulu dire aussi, ce qui m'arrive à chaque fois pour les albums. C'est très surprenant où on a l'impression que les chansons elles racontent déjà aussi ce qui va nous arriver par la suite. Elles sont prémonitoires. C'est très très surprenant.
Il y a une chanson qui vous est arrivée ?
J'ai pu écrire des choses comme par exemple Notre jeunesse. Qui parlait un peu de l'être qu'on rencontre et qui sauve, ça ne m'était pas encore arrivé en fait, ça m'arrive quelques mois après.
J'espère que Baise-moi ça va vous arriver pour Terre Noire, c'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Ça sera le mot de la fin. Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club, le dernier de la semaine. Merci à tous nos invités. Terre Noire, l'album s'appelle Les Forces Contraires. Florent Marché, Le Monde du Vivant, c'est paru chez Stock. Et Bertrand Betch, je rappelle le titre, La Traversée. Côté Club, ce soir, c'était Frédéric Milano et Stéphane Le Guenec à la réalisation. Programmation, Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rouzic et Muriel Pérez pour la playlist. On se retrouve lundi à 22h ou d'ici là en podcast avec Oshi qui se la joue samouraï, François Armanet et Bayon qui ont rencontré et filmé les héroïnes de la pop française, et en live, Marion.
Une musicienne singulière et inspirée, elle est percussionniste, bassiste, chef d'orchestre, compositrice, elle s'appelle Lucie Antunes.
Allez, Côté Club, on ferme. Bon week-end à tous et à tous. Lundi.